écoutez RFI, Radio France Internationale. Il est 6h à Paris, 5h en temps universel. Le journal dans RFI Matin avec Gaëtan Plenet. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Le menu s'annonce chargé à Oman.
Téhéran voudrait limiter les négociations qui débutent ce matin à son programme nucléaire. Oui, mais les États-Unis ont bel et bien l'intention de ratisser plus large. On est à Washington dès le début de cette édition. On est aussi en Haïti, J-1 avant le saut dans l'inconnu politique et la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition. Les habitants de Port-au-Prince en tirent un bilan très très mitigé, vous les entendrez. On sera ensuite en Égypte, près de familles palestiniennes qui hésitent encore à emprunter le passage de Rafah pour rentrer à Gaza. On parlera du consulat général de France qui ouvre ses portes aujourd'hui à Nouk, la capitale du Groenland. À suivre également le Sénégal où Internet est désormais disponible par le satellite Starlink. Et puis les JO d'hiver de Milan Cortina qui débutent officiellement aujourd'hui, cérémonie d'ouverture ce soir.
Début des discussions dans à peine moins d'une heure maintenant à Mascate.
La capitale du sultanat d'Oman, c'est là qu'Américains et Iraniens se retrouvent pour des négociations. Les premières depuis la guerre de juin dernier qui avait duré 12 jours entre l'Iran d'un côté et Israël de l'autre, soutenu par les États-Unis. Plusieurs sites nucléaires iraniens avaient été pris pour cible. Ce sont aussi les premières négociations depuis le mouvement de contestation violemment réprimé par la République islamique. Donald Trump a menacé, et le fait toujours d'ailleurs, de lancer une opération militaire. Bref, un contexte éminemment tendu. Et Vincent Souriau, n'en déplaise aux Iraniens, les États-Unis ont l'intention d'aborder de nombreux sujets pendant ces pourparlers.
D'abord, le programme nucléaire. Les États-Unis exigent, un, que l'Iran cesse d'enrichir de l'uranium sur son sol, deux, que son stock de métal déjà traité soit transféré hors des frontières iraniennes, ce dont Téhéran ne veut pas entendre parler. Washington veut aussi faire le tour du programme balistique de l'Iran, autrement dit, réduire la production et la portée de ses missiles. Des sources iraniennes placé, affirme à l'agence Reuters que c'est sans doute à ce jour le sujet le plus sensible pour les cadres du régime. Mais l'administration américaine veut également parler des groupes affiliés à l'Iran. Hezbollah, Houthi, milices irakiennes et du soutien que Téhéran continue de leur apporter. Enfin, les droits de l'homme ou comme le dit Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, la manière dont les Iraniens traitent leur propre peuple, elle devrait aussi figurer au menu des discussions pour que ces négociations débouchent sur des résultats probants, martèle Marco Rubio. Il faut qu'elles englobent la totalité de ces thématiques. Vincent Souriau, Washington RFI.
Steve Witkoff qui pilotera donc ces négociations côté américain. Côté iranien, ce sera le chef de la diplomatie, Abbas Araghchi, qui est arrivé à Mascate dans la soirée. Cette déclaration ce matin de l'Iran qui appelle au respect mutuel avant ses pourparlers avec Washington. Autre pourparlers à venir, cette fois entre Russes, Ukrainiens et Américains. Ce sera dans les semaines à venir, nous dit-on à Kiev, alors que des discussions du genre se sont déjà achevées hier à Abu Dhabi. Sans grande avancée d'ailleurs, à part l'annonce d'un échange de prisonniers entre Kiev et Moscou. Autre annonce quand même en marge de ces discussions, les États-Unis et la Russie qui vont reprendre un dialogue militaire de haut niveau. Déclaration faite quelques heures après l'expiration du traité New Start, le dernier qui encadrait encore les arsenaux nucléaires des deux puissances.
Lui expirera demain, samedi, en Haïti, le mandat du CPT.
Pour Conseil présidentiel de transition, installé il y a bientôt 2 ans maintenant, avec beaucoup de promesses. Non tenu, difficile de ne pas faire ce constat, toujours pas d'élection dans le pays et puis une insécurité toujours plus grande alors que les gangs armés contrôlent 80% de la capitale. À Port-au-Prince, les habitants sont déçus et inquiets aussi, reportage de Peterson Luxama.
À l'heure du bilan, à Port-au-Prince, les réactions ne manquent pas. Pour Misuel Timothée, croisé à Pétionville, l'échec de cette structure est cuisant.
2 ans après.
Il est clair que 2 ans après, c'est un échec total, un échec absolu. La situation s'est aggravée. Avant, il y avait encore des espaces, des quartiers où la population habitait. Aujourd'hui, ces quartiers sont perdus, contrôlés par les gangs. Je pense qu'à 98 ou 99%, le CPT n'a rien fait de sérieux pour le pays.
Gaspillage des fonds publics, corruption, indifférence à l'égard de la population, pour Johnny Batisma, voilà ce qui caractérise ces 2 ans du CPT à la tête du pays.
CPT, c'est échec total.
Le CPT, c'est l'échec total, l'échec sur toute la ligne. D'abord, sur le plan administratif, c'est de la gabegie total. Plusieurs membres du Conseil présidentiel de transition sont d'ailleurs cités dans des dossiers louches de corruption. On avait espéré qu'ils dépasseraient les clivages et qu'ils pensaient passerait vraiment au pays, mais au final, c'est l'échec total.
En cette fin de règne, le sentiment dominant à Port-au-Prince est celui d'une transition manquée dans un pays toujours plongé dans l'incertitude. D'autres citoyens, à l'image de Bidson, disent attendre un changement après le CPT.
Le changement, c'est tout le temps que nous y pensons, que nous en rêvons. Nous voulons l'organisation des élections, nous voulons de la sécurité, nous voulons du changement. C'est ce que nous attendons et rien de plus.
Un changement qui semble n'être pas pour demain, car à la veille du 7 février, le flou persiste. Le pays reste dans l'incertitude. Personne ne sait qui dirigera Haïti après cette date. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Alors quel bilan pour le CPT, quel avenir pour Haïti? Édition spéciale ce matin sur RFI, de 7h10 à 8h en temps universel. Ce sera avec Julien Coquelorem.
Et à suivre d'ici là, notre grand invité, Antoine Michon, ambassadeur de France en Haïti. Vous l'entendrez après le journal de 6h, temps universel.
Et c'est un autre bilan pour le moins mitigé que l'on pourrait faire à Rafah, entre la bande de Gaza et l'Égypte. Le poste frontalier a rouvert dimanche. Rouvert, c'est un bien grand mot. Entrouvert serait peut-être plus adapté. Quelques Gazaouis ont pu quitter l'enclave. D'autres réfugiés dans les pays voisins ont pu rentrer chez eux. Mais les transferts se font au compte-gouttes. Il faut remplir de strictes conditions imposées par Israël. Et puis il y a aussi la peur très vive qui freine encore de nombreuses familles. Correspondance au Caire de Martin Dumas-Primbeau.
C'est pour mettre à l'abri sa femme et ses trois enfants que Mohamed, 31 ans, a décidé de rejoindre l'Égypte début 2024.
La vie est très dure pour les Palestiniens ici. D'abord car nous sommes sans papiers, donc on ne peut pas louer un appartement à notre nom ou avoir un travail. Malgré tout, ça reste plus sûr qu'à Gaza.
La précarité grandissante le pousse à envisager un retour, malgré les risques.
Je réfléchis à retourner à Gaza, mais j'ai peur d'être arrêté. Deux femmes ayant pu rentrer rapportent avoir subi des interrogatoires côté israélien.
Sur son téléphone, le jeune homme se repasse la vidéo d'une femme dénonçant des violences de la part des soldats israéliens lors de son transfert.
Elle dit avoir été menottée et masquée. Les soldats lui ont dit qu'ils voulaient faire d'elle une espionne ou la mettre en prison. Et c'était une femme. S'ils avaient eu affaire à un homme, ils l'auraient interrogé. C'est sûr, ils sont capables de tout, vous arrêter ou même vous tuer.
Depuis le début de la guerre menée par Israël sur la bande de Gaza, plus de 100 000 Gazaouis comme Mohamed ont trouvé refuge en Égypte. Martin Dumas-Primbeau, Le Caire, RFI.
En Libye, c'est aujourd'hui qu'aura lieu l'inhumation de Saïf al-Islam, le fils cadet de Muammar Kadhafi. Il a été assassiné à son domicile mardi et c'est à Bani Walid, à 200 km au sud de Tripoli, qu'auront lieu ses obsèques, conformément à son testament.
Emmanuel Macron veut en faire le symbole de son soutien au Groenland face aux menaces de Donald Trump.
Le consulat général de France ouvre ses portes ce vendredi à Nuuk, la capitale du territoire autonome danois. Alors seuls 7 à 8 ressortissants français déclarés vivent sur place, mais le rôle du nouveau consul Jean-Noël Poirier sera plus large. Ancien ambassadeur au Vietnam, passé par la Libye et l'ONU, il nous explique le symbole et puis ses missions à venir aussi.
C'est une ouverture qui traduit la grande attention du président de la République à nos relations bilatérales, à nos relations avec le Groenland et le Danemark. Dans un premier temps, je viens pour les écouter, pour comprendre et bien relayer leurs demandes, s'ils en ont, qu'ils expriment à la France dans la situation présente. Il sera bien utile d'avoir un représentant permanent sur place et pour être vraiment au contact quotidien. Et donc, en cela, oui, on peut parler d'un rôle politique, effectivement.
Des propos recueillis par Julien Chavannes. Au Venezuela, un premier feu vert pour la loi d'amnistie. Elle a été adoptée en première lecture à l'Assemblée à l'unanimité. Un nouveau débat aura lieu mardi avant une probable adoption définitive. Cette loi est censée permettre la libération de tous les prisonniers politiques du pays et puis l'abandon aussi des poursuites qui les visent.
Au Sénégal, l'Internet désormais disponible avec Starlink.
Le satellite de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, une arrivée présentée par les autorités comme un levier majeur pour réduire la fracture numérique, notamment dans les zones rurales. Mais tout le monde n'est pas ravi pour autant. Les travailleurs de l'opérateur historique Sonatel, notamment, qui qui alerte sur un manque de transparence et des risques pour la souveraineté numérique sénégalaise. Correspondance à Dakar de Juliette Dubois.
Cette option a été choisie par l'État pour étendre l'accès au haut et au très haut débit, en particulier dans les zones rurales et enclavées. Avec ses satellites en orbite basse, Starlink promet une connexion rapide et stable, y compris dans les régions où les réseaux terrestres restent difficiles ou coûteux à déployer. Les autorités y voient un moyen de réduire progressivement les zones blanches. 5000 kits ont été obtenus à un tarif préférentiel et le gouvernement ambitionne de connecter gratuitement 1 million de Sénégalais au premier semestre 2026 avec des dispositifs de Wi-Fi communautaire. L'éducation, les collectivités territoriales, les zones frontalières et certains programmes de développement, notamment en Casamance, sont ciblés en priorité. Mais cette arrivée ne fait pas l'unanimité. Le syndicat des travailleurs de la Sonatel, l'opérateur historique du pays, dénonce un manque de transparence. Il s'interroge sur la nature de la licence accordée à Starlink et sur les conditions financières de son implantation. En toile de fond, une inquiétude majeure, la souveraineté numérique et le risque de voir les données personnelles des Sénégalais hébergées hors du territoire national. De son côté, le gouvernement assure que Starlink reste soumis à la régulation nationale et qu'il s'agit d'une solution complémentaire et non concurrente au réseau des opérateurs locaux. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Nous sommes le vendredi 6 février, top départ aujourd'hui des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina.
Et top départ officiel parce que dans les faits, certaines épreuves ont déjà commencé ces derniers jours en Italie, mais la cérémonie d'ouverture, elle, aura lieu ce soir au stade San Siro de Milan, avec la participation simultanée de 4 autres sites pour symboliser ces Jeux très éclatés géographiquement. La torche olympique est arrivée hier au terme de son voyage dans la péninsule. Au reportage de notre envoyé spécial Christophe Diremzian.
La flamme arrive presque au bout de son périple à Milan. Du village olympique à la célèbre place du Dôme, elle illumine les visages des plus fans de l'ambiance des JO comme Azzurra.
C'est une grande émotion. Il y a vraiment des belles vibrations dans toute la ville. Énormément d'étrangers et une vraie envie de faire la fête et d'être ensemble.
Stefano, volontaire venu de Pise, n'a pas attendu le passage de la torche pour se prendre au jeu.
Mercredi, nous étions à San Siro pour les répétitions du défilé. Et là, je vais à Santa Giulia pour le premier match de hockey. Je sais que des Milanais se plaignent du trafic, surtout qu'avec l'arrivée de 80 chefs d'État, la ville est un peu paralysée. Mais pour les JO, je pense que ça vaut le coup.
Pas mal de gêne quand même dans les rues envahies par l'activité autour des JO. Luigi s'en rend bien compte.
Comme me le disaient certains commerçants, je me dépêche de tout faire ce matin parce qu'après tout sera bloqué. Je pense que certains commerces vont y laisser des plumes, mais d'autres vont clairement y gagner. C'est un peu donnant-donnant.
Depuis lundi, la police milanaise a instauré 5 zones rouges, des périmètres de sécurité quasi barricadés où il faudra montrer patte blanche. Le prix est payé pour profiter des Jeux en toute sérénité. Christophe Diremzian, Matteo Cioffi, Milan Cortina, RFI.
Et la cérémonie d'ouverture de ces JO d'hiver débutera à 19h en temps universel, même si je le disais, certaines épreuves ont déjà commencé. Le hockey sur glace notamment, ça a d'ailleurs mal commencé pour les Françaises qui, pour leur tout premier match olympique de leur histoire, se sont inclinées 4-1 face aux hôtes italiennes.
Comment vous dites Jeux olympiques en italien, Gaëtan?
Giochi olimpici.
Magnifique. Le hockey sur glace, toujours à l'honneur d'une série à succès.
Oui, Heated Rivalry, parce que je suis trilingue en plus. C'est le nom de cette série qui débarque aujourd'hui en France sur la plateforme HBO Max, mais elle a déjà marqué les esprits, cette série, au Canada et aux États-Unis. Ce n'était pas forcément attendu, d'ailleurs. Cette romance gay est très vite devenue un véritable phénomène, Sophie Torlotin.
Canada-Russia final showcasing the two most talked about prospects in the world. Canada Shane Hollander.
Shane Hollander, I wanted to introduce myself.
La glace et le feu. En public, l'espoir du hockey canadien Shane Hollander affronte le russe Ilya Rozanov qui évolue à Boston. Mais loin des regards et dans leur chambre d'hôtel, les deux athlètes se livrent à de torrides ébats.
Not bad for first time. Fuck you, Rozanov.
Sorti en novembre dernier sur la plateforme canadienne Crave, Heated Rivalry a très vite atteint des records de visionnage. Le physique des deux jeunes éphèbes y est sans doute pour beaucoup, de même que la représentation de la vulnérabilité émotionnelle des hommes. Le succès surprise de la série canadienne a relancé les ventes des livres écrits par Rachel Reed et eu des répercussions dans le milieu du hockey sur glace, sport encore imprégné de schémas virils à l'ancienne et d'une homophobie latente. Cette série qui montre de façon positive un amour solaire entre deux garçons entend donc faire changer les mentalités et pas qu'outre-Atlantique. Elle est en effet visionnée clandestinement en Russie où la représentation de l'homosexualité est punie par la loi.
Sophie Torlotin du service culture de RFI.
Merci Gaëtan Plenet, il est 6h14 à Paris. RFI Matin, votre tour du monde de l'actualité de ce vendredi 6 février 2026. Nous sommes en Haïti aujourd'hui car le mandat du Conseil présidentiel de transition arrive à son terme. La fin est programmée, on vous le disait, demain 7 février. Et pour la suite, l'incertitude politique est totale. Le CPT avait été installé en avril 2024 sur la promesse d'un retour au calme. Promesse largement non tenue en l'espace de 2 ans. Plus de 10 000 personnes ont été tuées. On écoutera tout à l'heure un reportage de nos envoyés spéciaux Justine Fontaine et Arim Lipold avec une patrouille de police dans le centre-ville de la capitale, Port-au-Prince.
Portail éventré et criblé de balles, murs effondrés, maisons pillées et brûlées. Les rues où nous passons sont presque totalement désertes et ressemblent à une zone de guerre.
Moi j'habitais un petit peu plus loin, jusqu'à l'arrivée des bandits.
La guerre contre les grands.
Thank you.
rentrer dans ce passe-temps pour retraiter par pitié. Laissez la grammaire à grand-mère, laissez-moi papillonner en orbite à la conquête ma mère. Mon esprit est bien trop débordé, et ça mon acné ne fait que le confirmer. Quand je peine à contenir ces montées d'excitation, tout devient exhibition et mes yeux dévient d'un coup dans une longue digression. Mais comment voulez-vous que je maîtrise cette foutue concentration? À l'école de la vie, on te dit c'est l'école où la vie est la vie d'adulte. C'est le cadet de nos soucis, alors quand le professeur sourcille, excusez mon fou rire, c'est la seule défense qui m'est à tenir et m'évite de regarder les aiguilles prendre leur temps pendant que je perds le mien. À jalouser les absents, gribouillant dans mon coin, je fais partie de ces nigos, jamais vraiment au niveau, anxieux d'un passage au tableau, de peur passer pour un idiot. Pourtant j'en ai rentré les formules dans ma tête, mais je me sens difforme dans ce bulle. Franchement j'ai l'air bête, on trouve mes notes trop basses et ma voix trop élevée. Soudain fusent les menaces, une remarque dans le carnet, même assis au fond de la classe. On entend mes couplets, j'y suis pour rien, ça m'agace, mais je viens tout juste de muer. Alors j'apprends la triche et ses combines, mais du voyou je n'ai que la frime. Et pour me justifier le bagou si puéril, que mes pastiches passeraient presque pour des crimes. Et s'il fallait tout recommencer, pas sûr que je ferais les bons choix. Apprendre à lire et à compter, c'est pas très dur, enfin je crois. Mais pour la suite, je suis embêté, j'ai peur d'avoir tout oublié. J'aurais dû noter mes actions, prendre en photo mes sensations. C'est bien connu, le monde défile, on n'a pas le temps de se faire des films. On nous attrape par la culotte, on nous dit rentre dans le rang sale gosse. Alors on se propose, on se compose des alternatives. On s'envisage sur des images qui nous paraissent plus positives. On se dévisage, et puis d'un coup on sent le naufrage. Alors on change et on recommence, mais pendant ce temps, faut bien qu'on mange. Alors on se tait et on avance, on tourne les pages sans même les lire. Et puis on se tâte, alors on revient. En fin de compte, c'est ça notre délire. C'est de rester là avec nous-mêmes pour trouver le bon bout de la ficelle. Qu'on tire dessus et que ça se défasse, que le nœud s'efface. Et puis qu'on fasse enfin ce qu'on veut, de manière à pouvoir reformer dans un avenir très rapproché. Un style de nœud plus compliqué que celui qu'on vient de démêler. Pas d'écart car lancer guerre pour vérifier nos angles droits ne marchent pas là. Évite les flaques, évite de vivre, ça m'arrangerait. Sur mon vélo, y'a plus de guidon. Et sur mon dos, y'a que du carton. C'est l'encre noire qui fait défaut. Et c'est demain que je verrai mes fautes. Ça, c'est ce qu'ils disent, moi pour ma part. Je vis dans le présent. Vivre dans le futur serait méprisant. Et puis chacun vit dans son temps. Alors soyons plus indulgents. Les pratiques bien qu'atypiques, elles sont normales. Pour les adeptes en mal de corps, même le décor a bien changé. Y'a plus d'estrade, plus d'encrier, plus d'uniforme. Et si je m'efforce à décrier un manque d'empathie criant, c'est pour mieux dégivrer les qualités peu payantes, celles qui ne sont pas sanctionnées par nos énarques brillants. Et s'il fallait tout recommencer, enseignerait-on sourcils froncés? Comment penser, comment se ranger, comment toujours suivre l'énoncé? Sous peine de sanctions, de punitions, de réprimandes et d'affictions, affichons ton nom au tableau noir comme canotoire. Dès le plus jeune âge, on les initie au surmenage dans des institutions qui surnagent dans un manque de moyens sans relâche. Pas étonnant cadeau, les plus durs se lâchent. D'autant que plus on s'aimait ado, plus les adultes se fâchent. Quand un grand hurle de rage sur un petit 4 ans à la nature tenace, on peut se demander quel processus se passe. Certains manquent de tout, d'autres ne sont privés de rien. Certains mangent des coups, pendant que d'autres entendent c'est pas bien. Et malgré nous on leur demande à tous la même chose tous les jours, malgré tout, innocents fous. Eux du coup on s'en fout. On oublie de leur poser des limites. On en fait des enfants rois, ou alors s'ils nous irritent, on fait régner de tranches en bois. Et sur une planche en bois on découpe leur confiance en soi. On n'attend plus le soir pour leur raconter des histoires, un tas d'espoir foutu en l'air, tous les clones et c'est illusoire. Parfois faut savoir laisser faire, le système est à décrier. Les parents ne se font plus prier pour laisser défiler. Les problèmes de nouveaux plans sont à dessiner, à l'image de notre société violente et vulgaire. Ces pauvres marmots sont rejetés, parlent déjà d'adultère. La bonne formule, je ne l'ai pas. Peut-être moins de merde dans les médias, plus de budget dans les médias. Une prise de conscience collective pour la nouvelle génération. Quand on voit la gueule de la mienne, imagine celle en gestation. Dans quelle station finira-t-elle son trajet? Sans cesse outragé, on leur bousille leur insouciance, leur coupe sous le pied l'intelligence dans des sermons découragés. On stigmatise la différence avec des propos tout mâchés. Ne vous étonnez pas si c'est leur défiance qu'un jour ils viendront vous cracher. Rien qu'en maternelle, trop de destins tragiques. Alors ne coupons pas leurs ailes, n'étouffons point leur côté magique. Un sempiternel refrain trop nostalgique qui me rappelle bien que pour certains l'enfance s'éloigne vite.
right.